L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de foi et de victoire par le pasteur Joel Spinks. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir et de saisir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
Donc, vous êtes toujours à un véhicule, l'Église de la Victoire du Québec, et on va aller dans la parole de Dieu. Amen. Ce matin, le thème s'intitule « Vous êtes des gagneurs d'âmes ». Saviez-vous ça? Et comme j'ai envoyé le courriel cette semaine qui disait « Vous êtes des gagneurs d'âmes », des fois le titre « gagneur d'âmes » fait peur. Des fois les gens disent « Oh non, le pasteur va essayer de nous encourager, nous culpabiliser, nous faire à croire qu'on doit gagner des âmes. Et là on va aller à l'église puis on va se sentir mal, écrasé parce que j'ai pas gagné d'âmes cette année. » Ou peut-être ça fait des années que j'ai pas réussi à gagner des âmes et puis là finalement je vais aller à l'église pour me sentir tout croche et mal. Et là, ne levez pas votre main, mais combien d'entre vous, vous avez pensé peut-être que ce serait un dimanche comme ça? On serait donné un coup de pied, allez évangéliser. Bien, vous avez raison. Non, c'est une joke. Non, ce qu'on va vivre ensemble ce matin, vous allez voir, vous êtes déjà des gagneurs d'âmes. Donc, de un, la culpabilité va pouvoir disparaître, mais après, on va découvrir comment nous pouvons grandir dans notre appel de gagneurs d'âmes. N'est-ce pas merveilleux de savoir? On est déjà des gagneurs d'âmes et vous allez voir pourquoi. Donc, on va juste pencher nos têtes. Père éternel, on vient devant toi, Seigneur Dieu. On te remercie pour ta sainte parole. On te remercie parce que tu es bon, tu es merveilleux. Tu es notre Dieu trois fois saint. Et merci, Seigneur Dieu. Aujourd'hui, on peut s'approcher de toi en étudiant ta parole. On te remercie pour les rémas que nous recevons aujourd'hui, pour les vies transformées. Et Seigneur Dieu, je veux te prier également pour les internautes, les personnes à la radio en ce moment. Je te remercie pour chaque personne qui reçoit aujourd'hui cette révélation qu'ils sont des gagneurs d'âmes. Merci, Seigneur Dieu, pour ton onction qui règne dans cette maison, pour les personnes qui vont être touchées. Merci parce qu'on s'en va à un autre niveau aujourd'hui. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Matthieu 11, versets 29 et 30. Je vais vous lire premièrement dans la version Louis II. Par la suite, je vais vous lire dans Bible du Semeur et par la suite dans Second 21. Juste pour être certain que vous comprenez. Amen. Matthieu 11, versets 29 et 30. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes. Amen. Vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Donc, dans notre appel en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes censés de vivre la vie chrétienne d'une façon qui révèle le repos en Jésus-Christ. Et quand on est bien reposé, vous savez, moi j'ai été béni, je suis allé au spa pour notre 14e anniversaire de mariage. Mon épouse et moi, on est allé au spa. On a passé une journée au complet en train de relaxer. Et moi j'ai lu. Et ben moi je lis en relaxant ou je relaxe en lisant. Et puis, c'est doux et léger être au spa. C'est doux et léger, puis juste avoir un temps de relaxation. Et avec Dieu, l'œuvre est déjà accomplie. Amen. Avec Jésus, tout est accompli. Donc, nous avons juste à rentrer dans notre position en Christ. Et par la suite, nous servons le Seigneur, mais pas avec notre puissance personnelle, avec la puissance de Dieu. Et c'est pour ça que ça peut être doux et léger, parce que c'est Dieu à travers nous qui fait des miracles. C'est lui qui gagne les âmes à travers nous. Amen. Dans le même texte maintenant, mais dans la Bible du Semeur, il est écrit « Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter et la charge que je vous impose est légère. » N'est-ce pas absolument remarquable de lire ça? Si vous êtes là et vous dites « Ben, c'est pas mon expérience de vie chrétienne », bien, aujourd'hui, je vais vous inviter, on va le relire ensemble dans la Bible du Semeur. C'est trop merveilleux. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école. Donc, on veut être à l'école de Jésus. Amen. Car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter. Oh, c'est une bonne traduction, ça. Combien d'entre vous vous dites, oh, la vie chrétienne, c'est dur, c'est écrasant. Et vous savez, moi, il y a quelques temps, j'étais en train de... Je me souviens, je vous donne un peu des histoires, un contexte. Je suis là en train de repasser mes vêtements sur la planche à repasser. C'est remarquable, hein? Oui, je fais ça. Et puis là, j'étais un petit peu peiné. Je méditais sur des mauvaises choses qui m'attristaient. Et dans mon esprit, en anglais, ça me disait, « Well, you're doing it wrong. Ta vie chrétienne, tu ne la vis pas correctement. Si t'es malheureux, là, il y a quelque chose qui cloche, là. Il y a quelque chose qui cloche. Parce que c'est pas la faute de Dieu, comme vous savez. Dieu ne se réveille jamais de mauvaise humeur. Je vous le dis, peut-être vous pensez qu'il y a des fois, il y a des journées comme ça, là. Mais Dieu est toujours de bonne humeur. Donc, là, ça me dit à mon esprit, tu le fais pas correctement. Tu la vis pas correctement, ta vie chrétienne. Puis là, je me suis arrêté, puis c'est vrai, je me suis comme saisi. Et puis, j'ai commencé à changer ma façon de penser. Des fois, Dieu, il nous brasse un petit peu pour nous sortir de nos mauvaises pensées. Et là, dans la seconde 21, il est écrit, « Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau est léger. » N'est-ce pas merveilleux? Donc, on veut s'approcher du thème de l'évangélisation personnelle ou au niveau des gagneurs d'âme, pas avec l'aspect ou la pensée, la notion que « Oh non, là, je sais pas comment faire et puis je vais être écrasé ce matin, ça va être super dur, j'ai peur d'évangéliser, je déteste ça. » Il y en a des gens comme ça parce qu'ils ont eu des mauvaises expériences, ils se sont fait persécuter peut-être, ils ont vécu des commentaires, ils ont reçu des commentaires négatifs, des commentaires qui ont peut-être blessé certaines personnes. Mais vous savez, aujourd'hui, on s'approche du thème de l'évangélisation personnelle, comme quoi nous sommes des gagneurs d'âme, sachant que le Seigneur, là, il va travailler à travers nos vies. Amen. Donc, un autre verset rafraîchissant, c'est en Marc chapitre 1, plutôt, à partir du 16e verset. Marc 1, verset 16 à 18. Marc 1, 16 à 18. Il est écrit, en parlant de Jésus, comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, écoutez bien ce que Jésus a dit à Simon et André, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Donc ici, suivez-moi, Jésus a dit, suivez-moi et vous allez vous débrouiller tout seul et vous allez forcer, essayer du nez, forcer fort comme ça et puis, c'est pas ça l'expression, c'est comment on dit? Oh, vous avez compris? Vous allez forcer et puis là, on va essayer de gagner des âmes puis essayer de convaincre, ah ouais, faut que tu viennes à Jésus, là, je te... comme ça. Non, c'est pas ça que c'est dit dans la Bible. C'est dit, suivez-moi, Jésus a dit à ses disciples, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet. C'est merveilleux. Aussitôt, quand Dieu dit, suivez-moi, quand Jésus vous dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Parce que quand Dieu est avec nous, c'est tout à fait naturel. Gagner des âmes, c'est tout à fait naturel parce qu'on laisse l'Esprit de Dieu couler à travers nous. Et comme l'amour de Dieu déborde de nos cœurs et comme la joie de Dieu est reflétée sur notre visage, comme on parle aux gens de Jésus, de notre Seigneur, celui qui nous a sauvés, qui nous a lavés de tous nos péchés, bien ça vient tout à fait naturel. Amen. Et parce qu'on n'essaye pas de gagner des âmes par nos forces personnelles, mais c'est lui, je vous ferai pêcheur d'hommes. C'est Dieu à travers nous qui remplit notre bouche. Amen. Donc, c'est rafraîchissant. Donc, ce que Dieu nous appelle à faire, tout simplement, il dit la partie qui concernait les êtres humains, ok, cette partie-là, c'est « Suivez-moi, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Donc, si vous suivez le Seigneur Jésus, vous deviendrez des pêcheurs d'hommes. Amen? Amen. Et là, je peux vous dire, vous êtes déjà des gagneurs d'hommes. On va aller ensemble dans Jean chapitre 4, versets 34 à 38. Si vous dites, ben moi, j'ai jamais conduit une seule personne à Jésus de toute ma sainte vie, j'ai essayé, je me suis argumenté avec les gens, j'ai fait ci, puis j'ai fait ça, et puis ça n'a jamais fonctionné. Bien, peut-être vous allez voir que vous pourrez changer des choses, votre approche peut-être. Il y a des choses certainement qu'on peut faire. Une fois, j'étais avec une dame, et puis c'était une vente de garage, et là, la dame, une croyante, et puis elle voulait évangéliser. Et son approche, c'était comme ceci. Je vois des choses pas bibliques sur votre table ici, là. Vraiment, c'est pas de Dieu, ça. Vous allez passer votre éternité en enfer, monsieur. Un indice, c'est pas la méthode de Dieu. OK? C'est pas comme ça qu'on approche les gens. Malheureusement, faut le dire, parce que des fois, les gens font des approches, ils vont utiliser des approches comme ça. OK. Vous êtes déjà des gagneurs d'âme. On va voir ensemble dans Jean 4, versets 34 à 38. Jésus leur dit aux apôtres, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Donc, Jésus dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé en parlant du Père. Donc, Jésus voulait toujours accomplir la volonté parfaite du Père. Ça fait du sens? Amen. Et d'accomplir son œuvre. Ensuite, il nous dit au verset 35, « Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. » Ici, ça nous parle des âmes perdues. Verset 36, « Celui qui moissonne reçoit un salaire. » Donc, ici, je veux vous faire remarquer, il y a quelqu'un qui moissonne. Okay, en parlant des âmes, il y a quelqu'un ici qui va récolter la personne qui va se donner à Jésus. Une personne, tout d'un coup, est mûre, elle veut recevoir le Seigneur Jésus. Et là, ici, le texte nous dit, « Celui qui moissonne reçoit un salaire. » Et là, on dit, « Absolument, c'est sûr et certain, c'est ça que je veux vivre. Moi, je veux gagner des âmes. Et puis, quand je fais des semences, ça donne rien. Je vois jamais de récolte, je vois jamais rien qui se passe dans ma vie. Et puis, moi, Dieu m'oublie. » Non, ça dit, celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème, oh, il y a quelqu'un d'autre, celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Amen. Avez-vous déjà semé la parole de Dieu dans au moins une vie ici, en levant la main? Vous avez déjà parlé de Jésus à quelqu'un dans toute votre sainte vie? Oh, ben vous avez déjà semé la parole de Dieu. Donc, vous faites partie de l'équipe gagnante qui gagne des âmes. Alors, il y en a, oh ben non, il faut juste récolter pour dire on est des gagneurs d'âmes. Savez-vous, si vous faites partie de l'équipe qui fait des semences dans la vie des gens, vous êtes impliqués dans l'évangélisation? Savez-vous pourquoi c'est important? Quand je préparais ce verset-là, et le titre m'est venu même avant le restant des versets que je vous donne, c'est parce que Dieu veut que vous puissiez vraiment comprendre, on ne doit pas toujours penser, un jour je vais devenir un pêcheur d'hommes, ou un jour je vais devenir un gagneur d'hommes, mais non, comprenez aujourd'hui que vous êtes déjà là. Parce que quand on réalise, je suis déjà investi là-dedans, bien là, ça va juste continuer. Au lieu que ce soit un grand changement radical dans votre vie, vous allez dire, OK, là, je dois commencer à faire quelque chose. Non, mais vous continuez dans le courant dans lequel vous êtes déjà investi. Puis si vous dites, ben, je suis pas vraiment investi, mais là, vous pouvez changer les choses, gloire à Dieu. OK, si c'est vous. Mais celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car, verset 37, car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Donc, ici, ce qu'on veut voir, tout simplement, c'est qu'il y a un travail d'équipe. Et gloire à Dieu, parfois, on a le grand privilège de conduire une personne au Seigneur et on a le privilège de voir la personne se donner à Jésus et faire la prière de repentance et se donner complètement. Mais réaliser ceci, souvent, il y a eu beaucoup de travail avant. Souvent, il y a plusieurs personnes qui ont passé avant vous, qui ont semé la parole, qui ont semé. Et peut-être, il y a une grand-maman qui prie constamment pour la personne. Hein? Des fois, il y a une personne qui est là qui prie. Des fois, c'est un fils qui est éloigné et les parents prient pour le fils. Ils prient. Et puis là, il y a de la famille qui prie, les grands-parents, tout ça. Et il y a plein de personnes qui prient, d'autres personnes qui évangélisent, qui font de la semence. Et finalement, vous rencontrez la personne qui est mûre avec la conviction de l'Esprit de Dieu. Et là, vous dites, Jésus t'aime. Je veux devenir chrétien. Tout d'un coup, vous dites, oh, j'ai l'onction de l'évangéliste, moi. Mais réalisez que c'est un travail d'équipe. Et en plus, vous ne pouvez pas sauver personne. C'est le Saint-Esprit qui convainc la personne. Donc, c'est l'œuvre de l'Esprit. Et vous êtes le témoin fidèle qui est là. Vous récoltez et vous moissonnez. Vous êtes là, vous êtes béni. Gloire à Dieu. Mais n'oubliez jamais que c'est un travail d'équipe. Amen. Bon, c'est merveilleux. Là, je veux vous aider à comprendre. Je vais juste relire ce texte-là. On va prendre un petit peu de temps, pas trop longtemps. Pas juste ça. Oui, OK. Verset 35. OK. Écoutez bien. Je vais le relire au complet. Verset 34. Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Dieu, le Père, désire qu'on puisse prêcher l'Évangile pour que les gens soient sauvés. C'est la volonté de Dieu. Amen? Vous êtes d'accord? C'est son œuvre. Et c'était la volonté de Jésus. Vous, avez-vous cette même volonté? Voulez-vous voir des gens venir à Christ? Amen. Vous êtes d'accord? Vous êtes en accord avec Dieu. Amen. C'est bon. Verset 35. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous dis. Ceci veut dire, là, c'est maintenant. Ne dites pas, hey, on a encore 4 mois, 5 mois, 6 ans, 10 ans. Ne dites pas ça parce que l'heure de la récolte est maintenant. C'est ça que le texte est en train de nous dire ici. Voici, je vous le dis, levez les yeux. Ceci veut dire, levez les yeux. Si vous êtes là, là vous êtes en train de travailler, Dieu vous dit, levez les yeux et regardez. Ceci veut dire, le champ missionnaire est là où on se retrouve. Levez les yeux. Ça ne dit pas, prenez un billet d'avion pour aller en Afrique, pour aller évangéliser. Où 40% sont chrétiens déjà et au Québec, on n'est même pas 1%. OK? Si vous allez en Afrique évangéliser, c'est parce que Dieu s'est révélé à vous, surnaturellement, vous a vraiment donné un mandat, je l'espère, parce que le plus grand champ missionnaire au monde présentement, c'est ici au Québec. Donc, amen, et je suis d'accord avec moi-même.
Amen.
Mais donc, ceci ne veut pas dire qu'on veut oublier l'Afrique et tout ça. Non, 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 certainement pas. On veut évangéliser la planète au complet, n'est-ce pas? Mais ici, ça nous dit, levez les yeux. Là où est notre champ missionnaire, on a juste à lever les yeux, on n'a pas besoin de rien faire, d'aller ailleurs. Ici, c'est suffisant. Et là, ça dit, voici, je vous dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. La moisson est prête. Il y a plein de personnes qui sont prêtes, qui sont mûres, qui ont soif de Dieu. Mais savez-vous comment on peut vraiment connaître ces personnes-là? Comment on peut découvrir les personnes qui sont mûres? C'est en semant l'Évangile. Et là, on voit la personne, on voit l'ouverture du cœur. Et là, c'est alors où on peut voir que la personne se donne au Seigneur Jésus. Je vais vous lire un texte dans la version français courant, dans Matthieu 10, 41. Il est écrit, dans Matthieu 10, verset 41, « Celui qui accueille un prophète de Dieu, parce qu'il est prophète, recevra la récompense accordée à un prophète. Et celui qui accueille un homme fidèle à Dieu, parce qu'il est fidèle, recevra la récompense accordée à un fidèle. » Ce texte-là nous démontre un principe spirituel. Si vous recevez un homme de Dieu parce qu'il est fidèle à Dieu, vous recevrez en même temps sa récompense. Par exemple, quand moi je suis allé prêcher en France, et puis il y a des gens qui m'ont reçu comme un homme de Dieu dans leur église, et puis ils ont pris soin de moi, ils m'ont hébergé à l'hôtel, ils ont fait des choses comme ça, bien ils vont recevoir la récompense que moi je vais recevoir parce que j'ai prêché l'Évangile. Donc, les mêmes personnes qui ont entrepris, qui se sont investies pour que je puisse accomplir l'œuvre de Dieu, les mêmes personnes qui se sont investies vont recevoir ma récompense également. N'est-ce pas merveilleux? Moi, je trouve ça merveilleux. Donc, lorsque vous soutenez l'Église locale, et vous savez, quand vous semez dans les dîmes et les offrandes, c'est une portion de votre vie que vous remettez à Dieu. Parce que pour avoir ce montant-là, vous avez donné des heures à un employeur, n'est-ce pas? Vous avez travaillé pour récolter cet argent-là. Donc, lorsque vous semez ça et vous dites, c'est pour le royaume de Dieu, vous êtes en train d'investir de votre vie dans le royaume de Dieu. Et Dieu voit ça. Et quand vous soutenez l'œuvre de Dieu, en même temps, ce qui se produit, c'est que Dieu va vous récompenser. Comme moi, je vais être récompensé lorsque je prêche l'Évangile et les personnes sont sauvées. Donc, automatiquement, vous êtes des gagneurs d'âmes simplement en étant dans cette église. C'est une autre chose. Des fois, on ne se voit pas comme ça. On voit un frère et puis ce frère-là semble avoir beaucoup de succès dans l'évangélisation puis on se dit, lui, c'est un gagneur d'âmes. Mais saviez-vous, le fait d'être dans une église locale où l'église prêche l'Évangile et vous soutenez l'église et l'église gagne des âmes par les médias, par exemple, bien, vous êtes un gagneur d'âmes. Amen. Et en plus, on va être récompensé. Parce qu'on ne peut pas tous être derrière cette chair. Ça prend une personne. Mais quand on est là et on dit ce message-là, que Jésus sauve, que Jésus guérit, que Jésus remplit de l'Esprit encore aujourd'hui, moi, je veux soutenir cette œuvre-là. Bien, Dieu voit votre cœur, Dieu voit votre soutien. Et vous, non seulement vous accueillez l'homme de Dieu, mais en plus, vous supportez, vous soutenez. Bien, Dieu va vous récompenser pour ça. Donc, déjà là, enlevez le mensonge que c'est pour les autres, l'évangélisation. Déjà là, vous êtes impliqué d'une certaine façon. Mais maintenant, c'est le temps de dire, OK, mais là, je dois m'investir encore plus parce qu'il y a plus de place dans ma vie pour gagner des âmes. Amen. Amen. C'est ça que je voulais vous faire comprendre, juste au début. Parce que des fois, on est comme tellement, c'est toujours les autres, eux, ils ont du succès, mais on est déjà dedans. OK. Comprenons. Pourquoi devons-nous s'investir personnellement maintenant pour gagner des âmes? Pourquoi s'investir? Bien, dans Marc 16, verset 15, je vais vous donner ce texte-là, un texte que vous connaissez probablement. C'est un texte super important. Dieu nous donne, on dit en anglais, « the Great Commission ». Mais l'appel, en français, je ne sais pas trop comment dire, mais notre appel gigantesque, si on veut. Dans Marc 16, verset 15, il est écrit, « Puis il leur dit, Jésus leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » On doit s'arrêter et méditer sur ce verset-là pendant quelques instants. « Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Avez-vous remarqué, il y a un verbe ici. Jésus a dit « aller ». Le mot « aller » veut dire qu'on doit aller. On doit se lever et sortir des quatre murs de notre église pour aller vers les perdus. Amen. C'est merveilleux. On remercie le Seigneur pour les quatre murs parce que quand il y a du vent ou de la neige, on aime ça être dans notre confort, être bien assis. Hein? On est bien assis au théâtre ici, on relaxe, c'est bien. Mais il y a un monde qui se meurt à l'extérieur de nos quatre murs. Et Dieu nous dit, Jésus nous dit, allez par tout le monde, allez vers les gens. Allez vers les gens pour que les gens soient sauvés. C'est notre appel en tant qu'Église. Et là, déjà, il y a des gens qui disent, « Ah, mais là, je sais pas comment faire, je suis gêné, moi, j'ai pas de charisme, je suis comme ci, je suis comme ça. » Ne vous inquiétez de rien, on va vivre ça ensemble. OK, je vais vous donner le comment plus tard. À la fin de la prédication, là, je vais vous donner des choses, comment on peut faire ça en Église, ensemble. Comme vous savez, on a déjà des projets d'évangélisation, on vous a déjà partagé les choses, et puis d'ici quelques temps, on va vous révéler les fruits de notre investissement en Église, gloire à Dieu. Mais premièrement, notre mandat, allez. Et Matthieu 28, verset 19 à 20 maintenant, Matthieu 28, verset 19 à 20, c'est Jésus encore qui nous donne notre mission. Matthieu 28, 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ah, la fin du monde, c'est pour quand? C'est pour jamais. Le texte, la fin du monde, en fait, c'est pour le système de ce monde. OK, on ne parle jamais de la fin du monde à EVQ parce qu'on ne croit pas à la fin du monde. La terre, la Bible nous dit, est éternelle. Elle ne sera jamais détruite. Elle va être rénovée par le feu. C'est autre chose. Donc ici, ça nous parle de la fin du système de ce monde, le système mondain. Et puis des fois, les gens sont là, ils disent, « Ah ben moi, l'enlèvement de l'Église, j'ai pas vraiment hâte parce que j'ai tellement de choses à accomplir dans ma vie puis ça m'inquiète un petit peu puis je veux vivre ici puis je veux vivre ça. » Comprenez ceci. Moi, là, je veux vraiment vous aider à comprendre. Moi, j'ai tellement hâte à l'enlèvement de l'Église. Savez-vous pourquoi? Présentement, on vit sous le règne du malin. Savez-vous ça? Il y a la guerre, la pauvreté, la maladie, toutes sortes de choses atroces qui se passent dans notre monde. Récemment, juste vous donner une histoire horrifique. C'est pas parce que j'aime ça glorifier Dieu. Satan, c'est mieux glorifier Dieu. Mais un homme, il met son camion à vendre, il met ça sur un site web qui est Gigi. Et puis là, il y a deux messieurs qui veulent essayer son véhicule. Donc, le propriétaire du camion reste dans le camion avec eux. Il se fait tuer pour le camion. Les gens volent le camion comme ça. Ils tuent l'homme, un père d'une petite fille de 2 ans. C'est horrible, les gens, ce qu'ils font pour un véhicule. Imaginez, tuer un père. Horrible. Ça s'est passé il y a 2 semaines, je pense. C'est triste d'entendre des histoires comme ça. Mais là, ceci dit, avec ce système mondain, horrifique, avec toutes sortes de péchés, et là, savoir un jour, la fin du mal va arriver. Quand on parle de la fin du monde ou la fin du système mondain, c'est la fin du mal. Ben moi, j'ai hâte que le mal disparaisse. Moi, j'ai hâte d'être dans la paix et être dans le règne de Jésus sur la terre où c'est juste la paix, où c'est juste la santé, où c'est juste l'abondance. Et dire, ben j'aime mieux rester encore un petit peu longtemps avec Satan, là, juste encore un petit peu. Moi, j'ai pas besoin une journée, une minute de plus avec le diable. Moi, je serais super béni. De même, là, dans 2 secondes, on est tous enlevés. Là. Moi, ça me dérange pas. Il y a des gens qui disent, ouais, mais là, il faut gagner des âmes. Oui, il faut gagner des âmes, mais c'est pour ça qu'on est ici ce matin. OK, mais je continue. OK, et c'est excitant. Allez faire de toutes les nations des disciples. Et des fois, on a mal compris ça. On a dit, allez par tout le monde et faites des professions de foi. Et puis là, les professions de foi, OK, là, Jésus t'aime, est-ce que tu veux lire cette prière de repentance? Lis-la. Ah, t'es sauvé! Merci, bye-bye! Il y a une prière de repentance, si, voulez-vous la faire? Et puis là, on pense, à mesure que les personnes font des prières de repentance, sont sauvées, amen, et puis là, hey, aujourd'hui, j'ai vu 25 personnes accepter le Seigneur, ils ont tous dit oui, amen, et puis sont tous sauvés. Mais c'est pas ça que Dieu nous appelle à faire. Il n'a pas dit de devenir des personnes avec des petites cartes de prière de repentance, faites répéter ça, et puis bingo, le tour est joué. C'est pas ça l'affaire. Il dit, faites des disciples. Donc, les personnes doivent réaliser qu'ils sont pécheurs en route vers l'enfer, qu'ils ont besoin d'un sauveur, ils se donnent à Jésus-Christ, sont repentants pour leurs péchés, et puis se donnent entièrement et disent, Jésus devient le Seigneur de ma vie. Et là, la personne se donne vraiment à Dieu, est vraiment sauvée, le Saint-Esprit vient vraiment habiter la personne, et la personne devient un disciple, elle suit le Seigneur également, et elle aussi devient un gagneur d'âme. OK? Amen. Donc, on veut faire des disciples. Et le discipulat, ceci veut dire, il va y avoir besoin de l'investissement personnel dans la vie de la personne. Donc, si vous conduisez une personne au Seigneur Jésus, vous devez être prêt à vous investir personnellement pour que cette personne devienne mature dans les voies de Dieu. Amen. Parce que c'est une chose super importante, frères et sœurs. Dieu nous appelle à gagner des âmes. Oui, les personnes peuvent faire la prière de repentance avec sincérité, avec un cœur vraiment honnête devant Dieu. Mais par la suite, on doit s'occuper du petit bébé qui vient de naître. Imaginez si vous étiez médecin et puis là, vous prenez les bébés. Il y a plein de mamans qui accouchent et puis là, on prend les bébés, on les met dans une salle et puis bon, voilà, sont là. Non, on doit s'occuper des petits bébés, n'est-ce pas? On doit s'occuper des bébés spirituels. Donc, c'est ça qu'on doit comprendre. Si je veux être un gagneur d'âme, je ne veux pas laisser mes bébés spirituels mourir, mais je dois m'investir et je dois être un modèle pour eux pour qu'ils puissent me suivre comme moi, je suis le Seigneur Jésus. Amen. Amen. C'est important ça. J'aimerais ça vraiment que vous puissiez comprendre. Parce que moi, je crois, chaque personne dans cette église, cet été, là, on peut avoir la vision de gagner au moins une personne à Jésus. Amen. Moi, je crois que c'est possible. Au moins une personne. Et là, vous pouvez prier Dieu pour cette personne-là et voir la personne sauvée, née de nouveau. Et là, vous allez vous investir. Si vous dites, oui, mais pasteur, moi, je suis un nouveau chrétien. Bien, heureusement, vous pouvez être là pendant qu'on s'investit dans votre vie et la vie de la personne avec vous. Amen. Il y a suffisamment de chrétiens là. Amen. OK, on continue. Je dois vraiment me presser. Oh, mon Dieu. Je pourrais prêcher 2 heures là-dessus, mais je ne prendrai pas 2 heures. OK, je continue. Il n'y a personne qui dit, continue, pasteur. Donc, c'est vraiment vrai. Ah, OK, je continue. Bon, maintenant, là, on veut abattre les raisons, les excuses anti-évangélisation. On veut abattre ça dans nos vies. Amen? Êtes-vous prêts? Il y a des gens qui disent, bien, c'est pas vraiment mon don. L'évangélisation, c'est pas vraiment mon don. Je suis pas vraiment doué là-dedans. J'ai pas le don d'évangéliste. Premièrement, le don d'évangéliste n'existe pas. Il y a le poste, si on veut, ou l'appel, OK, dans le corps de Christ, dans Éphésiens 4, 11, oui, il y a des gens qui sont appelés en tant qu'évangélistes. Mais ici, on ne parle pas des 5 ministères, on parle de l'évangélisation personnelle, où nous partageons ce que Jésus a fait dans nos vies. Hein, on est témoins, on dit, Seigneur, Jésus a fait ceci, et là, moi, je vous raconte mon histoire. OK, donc, c'est pas vraiment mon don. Ou d'autres personnes vont dire, ben moi, je suis plutôt timide, et puis... J'aime vraiment être tout seul, j'aime pas vraiment ça, côtoyer des personnes, j'aime mieux être retiré et vivre ma vie chrétienne comme ça. Et je veux vraiment être gentil avec vous tous. Et je vais vous dire comment ça fonctionne. Est-ce que ça fonctionne très bien, cette façon-là? Si vous dites, ben moi, je suis plus ce style isolé, j'aime pas les gens, je veux pas m'investir, je veux pas parler de Jésus, mais est-ce que vous réussissez à gagner beaucoup d'âmes comme ça en étant isolé? Bien, la majorité du temps, les gens qui sont comme ça ne gagnent pas d'âme. Et si vous dites, ben, je suis comme ça, moi, saviez-vous que vous pouvez changer? On va laisser ça descendre. Mais je suis comme ça, j'ai toujours été comme ça, j'aime pas ça, les gens, je suis pas vraiment social. Mais Dieu peut vous changer. Ça dépend ce que Dieu dit. Jésus a dit, moi, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Si vous dites, ben, moi, ma nourriture, c'est de faire ma propre volonté, c'est autre chose. Moi, c'est se faire à mon affaire, puis si Dieu ouvre les portes un jour, s'il y a quelqu'un qui me tombe sur le toit de ma maison, là, puis dans mon salon, et puis là, ils sont là, je cherche Jésus, là, je vais lui dire. Mais ça risque de ne pas se produire comme ça. OK? Donc, on veut abattre les excuses devant nous, parce que si vous pouvez sortir de votre monde, ici, peut-être c'est des craintes que l'ennemi vous a comme placé devant vous, mais vous n'avez pas un esprit de crainte ou de timidité, mais de force d'amour et de sagesse en Jésus-Christ. Donc, vous faites franchir le mur du mensonge et dire, ça, c'est pas moi. L'ennemi me fait croire que je suis antisocial ou trop gêné ou trop ceci, trop cela. Non, ça, c'est un mensonge. Moi, je suis un gagneur d'âme. C'est ça que le pasteur m'a lu ce matin. Je crois ça. Et là, le diable dit, waouh, mais là, fais pas ci, fais pas... Non, je vais faire la volonté de mon Père. Comme Jésus. Moi, je veux servir Jésus et faire exactement comme Jésus faisait. Donc, Jésus voulait faire la volonté de son Père. Bon, ici, on l'a lu ensemble. Votre nourriture, voilà. Il n'y a pas de presse. Matthieu 24, 14 doit s'accomplir avant l'enlèvement de toute façon. Donc, il y a des gens qui ont lu Matthieu 24, verset 14, et on va lire ensemble ce matin. Et puis, les gens disent, bien, écoute, là, oui, il faut gagner des âmes, mais... Quand même, il faut se calmer, il n'y a pas de presse. La parole de Dieu nous dit que l'Évangile doit faire le tour de la planète au complet. Donc, il y a encore beaucoup de temps devant nous, tu vois, là, parce que cette prophétie-là n'est pas encore accomplie. Et on va lire ensemble, OK, on va lire une fois selon la tradition et après selon la vérité. Amen. Matthieu 24, versets 11 à 14. « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens, et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité ou l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Verset 13. « Mais celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » OK? Donc, selon la tradition, on a beaucoup de temps devant nous parce que là, il faut que l'Évangile fasse le tour de la planète avant que l'enlèvement ait lieu. Bon, comprenez premièrement que cette vérité-là ou ce texte-là est pratiquement accompli. L'Évangile a fait le tour du globe avec la télévision, l'Internet, les médias. L'Évangile circule partout dans le monde, n'est-ce pas? Donc déjà là, même ça, ça ne se tient pas. Mais deuxièmement, le texte ne parle pas de l'enlèvement de l'Église. Ça nous parle de la grande tribulation. On va le relire maintenant. Je vais juste commenter un peu, vous aider. Bon, ça dit plusieurs faux prophètes. Remarquez Matthieu 24. Vous vous rappelez qu'on avait fait la série sur l'Apocalypse ensemble. Vous vous rappelez que Matthieu 24 se réfère à la tribulation, n'est-ce pas? C'est la période de la tribulation. Et l'Église est déjà enlevée au ciel, n'est-ce pas? Parce que Dieu n'appelle pas son Église à vivre la colère et le jugement. Non, mais l'Église est protégée. C'est pour ça qu'on est enlevé, sinon ça ne donne rien. Hein? Si on passe à travers la tribulation comme le reste, pourquoi être enlevé? Ça ne donne absolument rien. Mais on est enlevé parce que Dieu veut nous protéger. Dans Matthieu 24, ça dit, au verset 11, « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. » Pendant la tribulation, il va y avoir beaucoup de séduction, certainement avant. Aujourd'hui, on en voit, mais surtout aussi dans cette période-là. Verset 12, « Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. » Certainement, pendant la tribulation, comme l'Église est enlevée, il va y avoir des gens de plus en plus méchants, et le sel de la terre va être enlevé, et puis on va voir toutes sortes de choses horribles. Mais moi, je ne verrai pas, parce que je vais être au ciel. Mais je continue. Verset 13, « Mais celui qui persévère jusqu'à la fin... » sera sauvé. Ce verset-là, on l'a pris hors contexte. Ça nous dit, en fait, ça nous parle de la tribulation. Celui qui persévère jusqu'à la fin dans la tribulation, celui qui a été né de nouveau, admettons, après l'enlèvement de l'Église, qui a été sauvé et qui persévère dans les voies de Dieu, qui ne veut pas se soumettre au système mondain, bien, il sera sauvé. Il parle ici, il a déjà vécu le salut par grâce, mais ici, ça nous parle de survivre la tribulation. Il sera sauvé, ça nous parle de survie. Comprenez-vous le texte maintenant? Le contexte nous parle de la grande tribulation. Et là, au verset 14, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée, même pendant la tribulation, dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » La fin de quoi? Du système mondain. Amen. Donc, comprenez-vous, on ne peut pas dire, bien là, on doit attendre ceci, doit attendre cela, avant d'évangéliser, parce que l'enlèvement n'aura pas lieu de toute façon. De toute façon, même si l'enlèvement était dans 100 ans, là, admettons, les personnes qui sont là ont besoin d'entendre parler de Jésus quand même. C'est pas parce que l'enlèvement a lieu qu'on devrait maintenant évangéliser. Non, on veut évangéliser parce que c'est notre appel. Dieu nous a donné ce mandat-là d'évangéliser, de prêcher la bonne nouvelle parce qu'il n'y a personne d'éternel sur cette terre. Il n'y a personne qui va vivre éternellement, présentement, dans un corps comme ça aujourd'hui. On va tous mourir un jour et puis on va devoir rendre compte à Dieu pour notre vie. Donc, on doit évangéliser et semer la bonne nouvelle. Amen. Je continue. Donc, on vient d'abattre deux excuses typiques. Et là, je vous donne une troisième excuse que j'ai vérifiée avec mon épouse parce que c'est une expression québécoise qui dit « On n'attire pas les mouches avec du vinaigre. » Bon, « On n'attire pas les mouches avec du vinaigre. » Ce qui veut dire « Attirons le monde en par leur appétit charnel. » En essayant d'attirer les gens par leur appétit charnel. OK? Ça, c'est une mode présente dans l'Église évangélique au Québec et partout à travers le monde. Il y a eu un livre horrifique qui a été écrit, qui a circulé dans les églises chrétiennes avec plein de bonnes choses dedans, mais suffisamment de mensonges pour enlever les gens de la bonne piste. On enlève les croix des églises parce que c'est trop religieux. On enlève la chair, parce que c'est trop religieux, on va mettre une petite chaise et un petit pupitre comme ça, là, une petite table plutôt, une chaise, une petite table, et puis on va boire notre petit café en prêchant l'Évangile qui ne dit jamais la vérité finalement, qui flatte toujours les gens sans du poil. Il y a une nouvelle mode comme ça. Et on va prendre les choses du monde et on va mettre ça dans notre église et les gens qui aiment le monde vont aimer notre église parce qu'on va être tellement comme le monde. Et là, les gens dans le monde qui cherchent Dieu, ils viennent dans votre église mondaine, il voit le péché, les choses horribles qui se passent dans les églises, et puis cette personne-là reste vide et dit, l'Église n'a rien à m'offrir. C'est pareil comme dans le monde. Et ça, c'est un mensonge concernant l'évangélisation. On attire les gens en étant charnels nous-mêmes. Et ils ne diront jamais comme ça. C'est certainement jamais comme ça qu'ils vont dire. Ils vont dire, on va faire de la pré-évangélisation. Comprenez ceci. Je crois dans la pré-évangélisation. Ce qui veut dire, c'est pas la première fois qu'on rencontre quelqu'un qu'on doit tout annoncer. On peut être un témoin vivant en démontrant l'amour de Dieu. Amen. Premièrement. Ok, on a des projets dans la pré-évangélisation où on s'investit dans la communauté, où on fait des bonnes œuvres. Amen. Pour glorifier Dieu. Et quand les gens voient les bonnes œuvres, là, on peut leur prêcher l'évangile. Amen. Mais il y a un autre courant. Mais je veux juste clarifier. Je donne l'équilibre premièrement. Juste vous donner ma position, comme ça vous fait comprendre mon cœur et ne pas croire que je dis autre chose. Mais après, on va voir certaines choses. Je clarifie. Matthieu 5, verset 16. Jésus a dit « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Amen. Donc, ne dites pas que je suis contre les bonnes œuvres. Non, je suis pour les bonnes œuvres, parce que Dieu est pour les bonnes œuvres, et puis on peut faire des bonnes œuvres pour glorifier Dieu. On peut aider notre prochain, s'investir socialement, absolument, je suis d'accord avec ça, ok? Donc vous êtes tous au clair, je suis pour les bonnes œuvres, ok? Amen. Bon, ceci dit, le courant présent pour évangéliser, soi-disant, c'est qu'on va essayer de faire comme le monde pour attirer le monde dans nos églises. Mais si on est obligé d'agir comme le monde, peu importe ce qu'on fait aujourd'hui pour attirer les gens, on va toujours être obligé de continuer dans cette même tendance pour les garder. Amen? Comprenez-vous? Si vous êtes obligé de faire quelque chose, une chose mondaine pour avoir ces gens-là avec vous, pour les conserver, vous serez obligé de faire encore ces choses-là éternellement. Finalement, votre église va être remplie de personnes qui ne connaissent pas véritablement Jésus-Christ parce qu'on n'a jamais prêché l'évangile de la croix. On peut juste être sauvé si on réalise qu'on a besoin d'un sauveur. On ne peut pas être sauvé en participant aux réunions d'une église et trouver ça très cool. Il y a des gens qui disent « Ah, ben ça, cette église, ils font telle chose, ça c'est cool, c'est cool, c'est cool. » Je m'excuse, Dieu ne nous dit pas d'être cool pour attirer les gens. Ça ne dit pas non plus d'être démodé. Non, on peut être contemporain, on peut avoir une chair comme ça au lieu d'avoir ça en bois. On peut suivre les modes dans le sens esthétique. Il n'y a pas de problème là-dedans. Hein, je ne suis pas obligé de vous prêcher avec une toge et une soutane ou peu importe. Je ne suis pas obligé d'être comme ça. Là. Comprenons ce que je veux dire. Mais le message ne changera jamais. On ne va jamais diluer le message. Amen. Je vais déranger des gens, je sais. Et mes amis sur Internet, soyez bénis, je vous aime. Mais en fait, là, présentement, ce qu'on voit dans l'Église, aujourd'hui, c'est vraiment l'apostasie qui s'installe de plus en plus, malheureusement. Dans 1 Jean 2, verset 15 à 16, j'aimerais ça vous donner vraiment la position de cette Église pour vous aider à connaître la vision, là où on s'en va. On évangélise à planche, on veut évangéliser, on veut gagner des âmes. Mais voici comment nous allons faire, et je vais vous le montrer. Que Dieu me donne plus de temps, parce que je suis loin d'avoir fini. Mais Dieu vous donne la grâce aussi. 1 Jean 2, verset 15 à 16. Il est écrit, « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. » Avez-vous lu la même Bible que moi, là? La Bible dit, « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. » Ici, on ne parle pas des gens dans le monde. Dieu nous appelle à aimer les personnes. Mais ici, ça nous parle de ne pas aimer le système mondain. Si quelqu'un aime le monde ou s'attache aux choses dans ce monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais elle vient du monde. L'orgueil de la vie. Vous essayez d'impressionner Dieu, admettons, ou les gens, vous voulez les impressionner par ceci, par cela. Vous les attirez en étant mondains. Et puis les gens, les pécheurs, sont tellement confortables dans votre église qu'ils peuvent revenir semaine après semaine après semaine. Et puis il n'y a jamais la conviction de l'esprit qui est là. Et les gens sont dans leur péché, puis c'est comme, ah, est cool cette église. Que cette église ne devienne jamais cool. À un tel point que on est là, puis on laisse les pécheurs parmi nous demeurer dans la mort. On est appelé à prêcher l'évangile pour que les gens soient sauvés, pas pour qu'il soit confortable. Que Dieu vous rende super inconfortable à chaque fois que vous venez ici, si vous êtes dans le péché, si vous vivez une double vie. Que vous soyez super inconfortable, inconfortable au max, pour que vous puissiez vous repentir et revenir à Jésus-Christ. Ça, c'est ma prière. Et on va en déranger. Et je veux vous donner vraiment la vision. Dans cette église, des fois, vous avez dit, mais pasteur, pourquoi on ne fait pas telle chose? Parce qu'on ne s'en va pas dans les poubelles. Je m'excuse, on s'en va pas dans les déchets de ce monde pour gagner le monde. Oui, on peut aller chercher les gens qui sont dans les déchets et les sortir et les emmener vers la lumière. Mais on n'ira pas dans les ténèbres avec eux. Il y a un pasteur que j'ai connu en Alberta, je l'ai déjà dit, il voulait toujours évangéliser dans les bars. Bien, ce pasteur-là que j'ai connu a quitté sa femme, a quitté son église, son pastorat et ses enfants pour être cool. Et puis, il est dans les bars à évangéliser, mais il est devenu comme eux. Dieu ne nous dit pas de faire des choses pareilles. Ne jouons pas avec la destinée éternelle des gens. Il y a des gens qui vont venir dans nos églises parce qu'ils cherchent Dieu. Ils doivent voir la différence parmi nous dans le peuple de Dieu. Ils doivent voir la sainteté dans la maison de Dieu. Amen. C'est pas du légalisme, ça. C'est pas du légalisme et ce n'est pas d'être religieux. Des fois, les gens vont dire, mais ils sont religieux. C'est pas une question d'être religieux de suivre Dieu et de marcher selon la parole de Dieu. Depuis quand c'est rendu comme religieux d'être biblique? Ça fait pas de sens. Écoutez bien, là, j'ai lu, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Notre attachement, ça devrait être aux choses de Dieu. On aime Dieu puis on est passionné pour Dieu. Moi, je suis béni quand je vois les gens de notre assemblée qui ont soif de Dieu, qui vont dans les groupes vie, qui prient, qui cherchent Dieu. Il y en a qui m'ont appelé, est-ce qu'on peut faire une réunion supplémentaire de prière parce qu'on veut prier Dieu, on veut chercher Dieu, on veut évangéliser, gagner des âmes. Des jeunes qui sont baptisés du Saint-Esprit, qui vivent une expérience avec Dieu, qui pleurent, qui sont touchés. Je trouve ça merveilleux, c'est bon ça. Gloire à Dieu, c'est ça l'Église de Jésus-Christ, c'est ça la vraie Église. La vraie Église, c'est des gens qui ont soif de Dieu, qui cherchent Dieu, qui sont consacrés à Dieu, qui ne sont pas dans le monde. Écoutez, je continue. Jean 15, verset 19 nous dit, Jésus dit, « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. » Le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Donc, si on est haï par les gens, c'est normal. C'est normal. Si vous dites, mais moi, mon but dans la vie, c'est d'être aimé de tout le monde et que les gens voient, ben l'Église est super cool, puis on est gentil. Puis vous savez ce que les gens peuvent dire? Quand on leur prêche la vérité, avec amour, c'est parce que l'objectif, c'est pas de froisser les gens, là. L'objectif, c'est d'aimer les gens à un tel point où on va leur dire la vérité. Où on va les aimer à un tel point où on va dire, Jésus t'appelle, mais tu dois te repentir de tes péchés. Et là, on passe du temps et on prêche l'évangile de Jésus-Christ. On prêche véritablement la croix de Christ et les gens sont devant un choix. C'est soit qu'ils acceptent Jésus ou qu'ils refusent. Mais c'est ça d'aimer les gens. On doit leur prêcher la vérité, puis vous êtes là, vous êtes d'accord aujourd'hui. Mais l'objectif, c'est pas de rendre les gens inconfortables, juste ou les froisser, les déranger. C'est pas ça. L'objectif, c'est de les sauver. Amen. Il y a des gens qui vont dire, mais là, pasteur, on veut bâtir des ponts. Et à l'église ici, absolument. On veut bâtir des ponts avec les gens dans la communauté. OK? On va s'investir, il y a des projets que vous connaissez déjà, on veut s'investir dans des projets d'amour pour aimer les perdus, pour aimer la communauté. Amen? Donc, sommes-nous d'accord aujourd'hui que nous voulons bâtir des ponts et ne pas nécessairement prêcher à chaque seconde de notre vie? Des fois, là, c'est juste de donner quelque chose à quelqu'un dans le besoin. OK? À un moment, on fait quelque chose et là, la personne reçoit l'amour, l'illustration ou l'expression plutôt de notre amour. Voilà. Mais après, comme on bâtit des ponts avec les gens, il faut traverser les ponts et leur prêcher l'Évangile. Il y en a qui sont là juste à bâtir des ponts, bâtir plein de ponts, mais il n'y a jamais aucune auto qui circule dessus. Et on ne leur prêche jamais l'Évangile. C'est juste rendu social, l'Évangile social, mais ça ne marchera pas. Et vous savez, il y a eu des temps où j'ai eu l'opportunité d'influencer un mouvement au Canada. On m'a demandé, qu'est-ce que tu penses qu'on devrait faire pour tel événement? On m'a demandé ça, j'étais au téléphone avec une vingtaine de personnes. Et puis j'ai dit, on doit prêcher Christ, on doit prêcher la croix. J'étais le seul qui disait ça. Comment est-ce qu'on peut faire pour rejoindre les gens? On doit prêcher Jésus. par la prédication de la croix. C'est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu, et Dieu nous donne sa puissance pour prêcher son évangile. Mais j'étais là, j'étais le seul qui disait, faut prêcher Jésus, faut prêcher la croix. Ah, ouais, OK. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont d'autres idées? C'est sérieux, c'est grave. Oui, 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 on veut bâtir des ponts, on veut aimer les gens. Comprenez mon cœur, oui, on veut faire ça. Mais pas à un tel point où on va s'effacer et on ne prêchera pas Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que dans Romains 10, verset 13 à 17, Romains chapitre 10, verset 13 à 17, il est écrit, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Verset 14, « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle aussi. Isaïe dit-il, « Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Qui croira si on ne prêche jamais Jésus-Christ? Si on fait des bonnes œuvres, et on va en faire, et on en fait, mais on va en faire encore plus, on va se mobiliser davantage en Église. Gloire à Dieu pour ça. Mais vous devez comprendre qu'on va parler de Jésus. Amen. On va parler de Jésus. On ne laissera jamais les gens juste voir l'expression de notre amour, et après, ils vont dire, « Ah, ben c'est super, pourquoi vous faites ça? » Bye. Non, non, non. C'est l'amour de Dieu. C'est Jésus, il m'a tellement aimé, là. Jésus m'a tellement aimé, il m'a sauvé, puis parce que son amour est en moi, moi je veux t'aimer avec l'amour de Dieu, puis on est venu ici aujourd'hui parce qu'on veut venir vous bénir. Ah oui, oui. Puis cet amour-là, et là vous commencez à parler de l'amour de Dieu, et vous gagnez des âmes au Seigneur. C'est, on dirait que c'est pas compliqué, me semble, mais pourquoi que. Je sais pas. Mais c'est parce qu'il y a. En fait, qu'est-ce qui se passe, là, c'est que les gens veulent tellement être aimés des gens. On veut être aimé des gens. Les gens sont là, on veut être aimé. Mais la Bible nous dit qu'on veut être haï des gens. Je vais vous relire ça, parce que vous ne croyez pas. Écoutez bien, vous devez croire ce que la Bible dit. Moi, j'étais habitué de me faire haïr. Moi, ça m'a aidé, là, à l'école, parce que quand j'avais 5 ans. Non, mais c'est vrai, quand j'avais 5 ans, j'ai réalisé, en allant à l'école, que ce n'était pas cool de servir Jésus. À l'âge de 5 ans, moi, j'ai dû prendre une décision. Les enfants se prosternaient devant moi à l'école. Ils disaient « Alléluia, Alléluia, Alléluia », comme ça. Ils se moquaient de moi. Là, je suis revenu à la maison, puis je pleurais. Je disais à ma mère, « Les enfants se moquent de moi parce que j'aime Jésus. » Et puis là, elle me dit, « Ah, mais là, ils sont pas vraiment contre toi, ils sont contre celui qui est en toi. C'est Dior, en réalité, qui est contre le Jésus qui est en toi. Puis là, tu as juste à choisir de marcher avec Jésus, puis tu vas être béni. » Puis là, ma mère m'avait tout expliqué ça. Et à l'âge de 5 ans, j'ai dû prendre la décision, est-ce que je vais arrêter de parler de Jésus pour être accepté de mes amis, ou je vais vraiment comme continuer avec le Seigneur? Et moi, j'ai pris la décision. Je sais que c'est pas une religion, j'aime Jésus. Et puis j'ai continué dans les voies de Dieu. Et merveilleux, c'est merveilleux, c'est possible pour tout le monde aussi. Des fois, les gens disent, ouais, mais toi, tu es une exception. Mais je devrais être la règle. Ça devrait être normal. Si on accepte le Seigneur quand on est jeune, là. Vous savez, là, j'ai commencé à prêcher dans ma remise, où je sortais la tondeuse, les râteaux, j'invitais les enfants du quartier. Puis j'avais une vingtaine de membres à l'âge de 5-6 ans dans ma remise qui venaient, connaissaient les cantiques de l'Église. Moi, je faisais les chants et je prêchais. On évangélisait dans les rues. Vous savez, on peut évangéliser même comme un enfant. Amen. Il y a tellement de choses. Mais c'est ça, mais j'avais compris quand j'étais jeune que je ne serais pas toujours applaudi et aimé des gens. Parce que le texte, je veux vous le relire, vous avez besoin de croire ce que Dieu dit. « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. » Si on fait des projets d'évangélisation, OK, et puis quand on leur prêche l'Évangile, et les rebelles refusent le message, et puis si, après, ils vous haïssent la face, c'est normal. C'est normal. C'est normal. Êtes-vous prêt à payer le prix? Être détesté des gens? C'est vraiment ça. Parce que si on veut toujours être aimé de tout le monde, oubliez ça, n'évangélisez pas personne. Restez chez vous. Non, mais c'est vrai. Je veux le relire et que la planète francophone entende ce message. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde. À cause de cela, le monde vous est. » Ça, c'est juste une vérité, on doit croire ça. Amen. Puis dans l'Apocalypse 3, verset 20, remarquez le texte, ça dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Jésus était à l'extérieur de l'Église, de Laodicée. C'est l'Église d'aujourd'hui, ça. À l'extérieur des Églises. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Si quelqu'un entend ma voix, des fois, il y a tellement de musique forte, je ne sais pas. C'est correct d'avoir de la bonne musique forte, mais si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Mais Jésus dit, voici, je me tiens à la porte. Jésus est à l'extérieur de l'Église, parce qu'on fait notre propre affaire sans consulter Dieu, selon notre volonté et non celle de Dieu. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai. Pour revenir aux anciens sentiers, j'ai prêché une prédication là-dessus il y a quelque temps, mais le Seigneur m'a mis à cœur de vous lire encore ces deux versets-là. Dans Jérémie 6, verset 16, « Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie, marchez-y, et vous trouverez le repos de vos âmes. » Avez-vous remarqué le premier verset qu'on a vu ce matin? Le repos en Jésus-Christ. Parce que si on est taillé des gens, parce qu'on aime Jésus et on prêche la vérité, mais on trouve au moins notre réconfort, notre repos, notre consolation en Jésus. On n'est pas tout seul dans cette affaire. « Quelle est la bonne voie, marchez-y, vous trouverez le repos de vos âmes. » Mais ils ont répondu, « Nous n'y marcherons pas. » Et c'est le rapport de plusieurs églises aujourd'hui. Non, on va faire notre tête. C'est trop démodé, les anciens sentiers, on va faire ça plus moderne, plus cool, à notre façon. On va redéfinir l'Église aujourd'hui. Mais on ne prêchera jamais Jésus-Christ. On ne prêchera pas le vrai salut. Et puis dans nos églises, on va avoir plein de païens, des personnes perdues, des pécheurs, des gens qui vivent dans le péché, puis on s'en fout. Jérémie 18, verset 15, je sais vous êtes édifiés au max, là. « Cependant, mon peuple m'a oublié, il offre de l'encens à des idoles. Il a été conduit à chanceler dans ses voies, à quitter les anciens sentiers, puis suivre des sentiers, des chemins non frayés ou d'une voie non préparée. » Donc, on a vu toutes sortes d'excuses pourquoi on ne veut pas évangéliser. On a vu deux que je vous ai mentionnées. Peut-être que vous avez, dans le sens, c'est pas vraiment mon don. Et l'autre, bien, il y a des prophéties qui doivent s'accomplir avant l'enlèvement. Donc, je m'investis pas vraiment. Il n'y a pas de presse, tout ça. On a vu comment c'est pas vrai. Et aussi, on va attirer les mouches, pas avec du vinaigre, hein, par du miel peut-être, là. Mais on a compris que, non, pour attirer, là, savez-vous, c'est qui attire? C'est l'Esprit de Dieu qui attire. Savez-vous comment on va faire? On va prier. On va prier pour les perdus. On va prier et le Saint-Esprit qui est saint, un Dieu de sainteté, va attirer les âmes. Nous, on va prêcher l'Évangile, on va avoir la foi que Dieu va se servir de nous et on va prêcher l'Évangile sans compromis. Amen. Et les âmes vont venir et ils vont se coller à nous comme un aimant parce qu'ils ont besoin d'entendre la vérité à quelque part. Ils ont besoin de savoir, il y a quelqu'un à quelque part qui va nous dire la vérité. Il y a quelqu'un qui va oser se tenir pour la vérité et dire les choses qui sont vraies. Au lieu de flatter les gens dans le péché, reste dans ton péché, reste dans ta mort. Ça, c'est pas d'aimer les gens, c'est de s'aimer plus soi-même pour grandir dans notre église, avoir beaucoup de personnes. Avoir tellement de personnes, mais ils sont tous perdus, puis ça donne rien. OK, mon dernier point, vous avez encore 3 minutes à me donner? 4, OK, un bonus. Comment faire? Par où commencer? Comprenez votre identité. Premièrement, comprenez votre identité. Je vais faire ça rapidement pour la fin. Philémon 1, verset 2. Dans Louis II, ça dit, « À Archip, notre compagnon de combat, ou dans Bible du Sommeur, notre compagnon d'armes. Comprenez que vous êtes un soldat engagé dans un combat spirituel. » Amen. Vous êtes un soldat dans l'armée de Dieu. Amen. C'est la chose que vous devez comprendre. Comment? Par où commencer? Comprenez premièrement votre identité, vous êtes un soldat. Réalisez-vous ça ce matin. Vous êtes un soldat dans l'armée de Dieu. Amen. Dans Philippiens 2, 25, ça dit, « Épaphrodite, mon frère, mon collaborateur et mon compagnon d'armes. » On parle d'armement ici. « Mon compagnon d'œuvre et de combat » dans Louis II. Donc, et vous devez comprendre votre armement. Vous êtes armé avec quoi, là? Certaines religions, eux, ils s'arment avec des explosions puis ils se font sauter. Non, c'est pas comme ça, là, avec Dieu. 2 Corinthiens 10, versets 3 et 4, il est écrit, « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. parce que nous marchons selon la chair physiquement, on a un corps. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Donc, on ne va pas emprunter les stratégies de la chair non plus pour gagner des armes. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Donc, les armes de Dieu sont puissantes. Donc, notre équipement, notre armement, là, c'est spirituel, c'est la puissance de Dieu. C'est ça qu'on a pour gagner des armes. Donc, vous êtes un soldat, vous êtes appelé à être là, à votre poste, dans l'armée de Dieu, et revêtu de la puissance de Dieu. Amen. Là, vous dites, ben, OK, je suis un soldat, je ne savais pas. Oui, vous êtes un soldat dans l'armée de Dieu, si vous êtes un enfant de Dieu. Mais là, vous devez entrer dans les rangs du soldat. Vous devez vraiment, si vous êtes enrôlé dans l'armée divine, vous devez entrer dans les rangs aussi et servir le roi des rois. Amen. Je vous donne un texte. 2 Timothée 2, versets 1 à 7. Je termine très bientôt. « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi. » Là, l'apôtre Paul, il parle à son fils spirituel Timothée. Il dit, « Toi, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles. » Des hommes fidèles. Donc, il y avait des personnes en qui ils pouvaient s'investir, qui sont capables de l'enseigner aussi à d'autres. Amen. Verset 3. Remarquez le verset 3. « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Ceci veut dire, des fois, on va être persécuté pour la cause de Christ. « Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » Dans la Bible du Sommeur, ça dit, « Celui qui s'engage dans une expédition militaire ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile afin de donner pleine satisfaction à l'officier, dans ce cas ici Dieu, qui l'a enrôlé. » Donc, si notre vie est tellement occupée, chargée de tellement d'activités, Dieu nous dit ici, là, on doit se débarrasser des choses de la vie qui prend tout notre temps. On doit avoir du temps pour servir Dieu. Si vous êtes un soldat dans l'armée de Dieu, pour gagner des armes, on doit disposer du temps pour Dieu. Verset 5, « Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. » Dans la Bible de Sommeur, on n'a jamais vu un athlète remporter le prix sans avoir respecté toutes les règles. « Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. » Il faut passer et servir. « Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. » Donc, je termine avec ceci. Donc, on doit être à notre poste. Si vous êtes un soldat, êtes-vous toujours réveillé avec moi ce matin? Vous êtes un soldat dans l'armée de Dieu. Nous sommes cette armée spirituelle qui va revenir avec Jésus sur les nuages. Quand Jésus va venir libérer Israël, je ne prêcherai pas l'Apocalypse ce matin, mais nous sommes cette armée qui va revenir dans la bataille d'Armageddon et nous gagnons en plus. Amen. Mais avant ce jour, nous sommes une armée ici, dispatchée du ciel à la terre. Ma nouvelle Jérusalem, c'est ma maison, mais je suis ici sur la terre pendant quelques temps. Et puis mon rôle, c'est d'être un soldat de Jésus-Christ, de prêcher l'Évangile avec la puissance de Dieu. Et je combats spirituellement, pas d'une façon charnelle, et j'essaie pas des tactiques humaines charnelles pour attirer les foules. Non, je veux prêcher et rester dans la vérité. Donc, je vais être à mon poste spirituellement. Comment? Dans la prière. Je vais prier. Amen. Je vais prier pour les âmes perdues. Dans la foi et l'expectative. Si je prie pour quelqu'un, je vais m'attendre que la personne va recevoir Jésus. Je m'attends que l'Esprit de Dieu va travailler son cœur et que la personne va venir au Seigneur. Amen? Bon. Et géographiquement aussi. Donc, spirituellement, je vais être positionné dans l'armée et géographiquement. Ceci veut dire, je dois, quand j'évangélise la semaine, là, le dimanche, je reviens pour faire quoi? Pour aller m'entraîner. L'Église, en fait, c'est un temps d'entraînement spirituel où le corps de Christ, l'armée, on est là, on vient pour s'entraîner spirituellement, pour regagner des forces, afin de retourner encore une fois sur le champ de bataille. Et dans mon groupe vie, donc l'évangélisation, je termine avec ceci, il me reste encore trop de temps, mais je dois vous le dire, ce qu'on veut faire, dans les groupes vie de cette église, on a toutes sortes de projets d'évangélisation et c'est par les groupes vie qu'on fonctionne parce qu'on veut faire du discipleur. On veut prendre soin des nouveaux bébés. Amen. Donc, c'est super important. À la fin de cette prédication, chaque leader de groupe vie vont recevoir une partie d'un trousse de l'association Billy Graham. On va travailler en association avec l'association Billy Graham pour rejoindre des âmes. Et il y a tout un beau projet. Hier, on a eu une journée ici où on avait la présentation avec les représentants C'est vraiment formidable et on veut vraiment s'investir dans ce projet-là en tant qu'Église. Et ça va commencer avec les groupes vie parce qu'on veut travailler avec les gens qui sont vraiment investis dans l'Église. Et là, aujourd'hui, vous entendez ce message-là, vous dites « Ok, oui, je veux gagner des armes. » Ben, inscrivez-vous dans un groupe vie pour faire partie de l'armée, de cette armée qui est vraiment investie ensemble. Amen. Et si vous dites « Ben, j'ai jamais fait partie d'un groupe vie ou j'aime pas ça. » Posez-vous la question, demandez à l'Esprit de Dieu « Seigneur, ma vie présentement, là, isolée, est-ce que je gagne vraiment beaucoup d'armes? Est-ce que je porte beaucoup de fruits pour toi? » Si Dieu vous dit « Oui, regarde tous les armes, là, t'es pas investi dans rien, mais regarde, là, oui, regarde les masques qui sont avec toi. » Mais gloire à Dieu, vous pourrez nous montrer les masques qui sont avec vous. Mais sinon, écoutez bien ceci. Des fois, il faut s'arrêter et dire « Seigneur, ma vie chrétienne, là, je veux qu'elle fonctionne. Je dois m'investir pour gagner des armes. » Amen. Donc, dans mon église locale, dans mon groupe vie, ok, donc aujourd'hui, j'allais m'inscrire, si je ne fais pas partie d'un groupe vie, je vais m'inscrire pour embarquer avec tout le monde qui ont cette vision qu'on va gagner des âmes. Et là, ça dit, vous recevrez l'intelligence spirituelle. Mais là, comment connaissez-vous un perdu? Connaissez-vous au moins une personne qui ne connaît pas Jésus-Christ? Oui, vous en connaissez au moins une. Là, on va vous enseigner comment prier pour la personne. Avec l'association Billy Graham, on va travailler dans cette direction-là. Et l'aimez-vous suffisamment? Je veux que vous puissiez voir pendant 2 secondes. Voyez le visage de cette personne qui ne connaît pas Dieu. Est-ce que vous voyez la personne devant vos yeux maintenant, là? Êtes-vous capable de visionner quelqu'un, là? Il y a une personne que vous connaissez, que le Saint-Esprit vous met dans votre tête en ce moment, dans votre cœur. La voyez-vous? Une personne, la voyez-vous?
Oui.
Maintenant, je vous pose la question. L'aimez-vous suffisamment pour vous investir pour qu'elle soit sauvée? Oui. L'aimez-vous suffisamment pour vraiment sortir de votre zone de confort? C'est une grande question. L'aimez-vous suffisamment? Cette personne-là, pensez pas à l'évangélisation en gros, pensez à une personne. L'aimez-vous suffisamment que vous allez vous investir et sortir de votre zone de confort et peut-être faire quelque chose que vous n'avez jamais fait de toute votre vie et dire, je prends un pas dans l'armée et je suis un soldat, pas un soldat à la retraite dans la tente, qui est caché dans la tente, mais je vais sortir de cette tente et je vais aller sur le champ de bataille et je vais gagner des âmes pour Jésus. Je vais les secourir de l'enfer. Je vais être un instrument entre les mains de Dieu pour gagner ces gens-là.
Amen.
Pensez à une personne. Pensez pas au pasteur. Pensez pas, je vais me sentir obligé. Pensez pas, faut évangéliser. Pensez à cette personne qui a besoin de Jésus. C'est la saison, je prophétise aujourd'hui, pour chaque personne qui va croire Dieu. C'est la saison la plus excitante qu'on va vivre en Église. Cet été, c'est la saison la plus excitante. Dans les groupes vie, on se mobilise, on passe à l'action, on va aller sauver des personnes, parce que c'est Dieu à travers nous qui va faire l'œuvre. Amen. C'est doux et léger, on n'est pas là pour s'imposer, on force pas les gens, on leur prêche l'Évangile par l'amour de Dieu et aussi en déclarant la vérité de la parole de Dieu. C'est merveilleux, je le dis dans cette maison, attendez-vous à voir des personnes sauvées cet été. Amen. Et là, j'invite l'équipe de la louange, je veux vous présenter quelque chose ici. Dans cette maison, on veut pas juste des confessions de foi, des professions de foi. On a des manuels. Je vous explique un peu, parce que vous devez savoir, en ensemble de l'Église, une personne devient un enfant de Dieu, se donne à Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'on fait avec la personne? Bien, depuis 2008, on a ce manuel qui s'appelle « Le disciple victorieux ». OK? Et chaque personne dans l'Église, en général, les nouveaux convertis, on fait le cours « Les disciples victorieux » où on passe à travers les doctrines majeures de la Bible pour bien enraciner les personnes dans la parole de Dieu. C'est super important d'encadrer au tout début de la vie chrétienne. Et là, cette année, on vient de sortir un nouveau produit, « Le disciple victorieux » en PDF. Donc, les gens mettent le CD dans leur ordinateur. Ils peuvent lire le livre en fichier digital, et en même temps, moi, je passe à travers le livre et je fais des sessions, 30 sessions de 15 minutes. Donc, vous écoutez avec la personne que vous venez d'évangéliser. Vous écoutez 15 minutes avec la personne, OK? Et par la suite, vous arrêtez le CD et vous discutez avec la personne l'enseignement que la personne vient d'entendre, que vous avez entendu aussi. Donc, quand il y a un nouveau-né, on ne veut pas les laisser tout seuls à dessécher puis débrouille-toi. Non, on doit prendre soin des nouveaux-nés. Et on est équipé à l'Église ici pour le faire. Amen. Donc, le disciple victorieux, avec vos groupes vie, vous recevrez un dépliant comme ça de l'association Billy Graham. Et ça va vous donner la vision pour le projet qu'on a en Église, qu'on a adopté en Église ici. Ça va être merveilleux. Et là, vous dites, ouais, mais comment est-ce qu'on fait pour vraiment être équipé pour faire ça, ce travail-là? L'association Billy Graham nous donne Mon Espoir, manuel du participant. Donc, vous avez toutes les informations, comment procéder. Merveilleux. Ouais, mais si une personne accepte le Seigneur, qu'est-ce que je leur donne? L'Évangile de Jean. tout équipé, là. Tout est équipé. Si vous voulez faire la volonté de Dieu, vous pouvez donner des excuses. Vous pouvez donner des excuses ou vous pouvez commencer à voir ce que Dieu voit. Des gens qui se meurent autour de vous, mais en même temps, le Saint-Esprit, quand vous allez prier que Dieu vous donne des personnes, des noms de personnes, vous allez commencer à prier et vous verrez des miracles, vous verrez la soif des gens. Les gens vont venir vers vous et là, vous allez leur prêcher l'Évangile. Les gens vont accepter le Seigneur Jésus et devenez ce qui va se passer. On va avoir des nouveaux soldats dans l'armée. Et l'armée va grandir. Et là, l'armée va avancer. Et on va entendre le bruit d'une armée qui se lève dans cette ville et dans cette province et dans cette nation et dans la francophonie. Et là, ce qu'on va faire, on va faire encore plus de grandes choses pour le Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever ce matin, armée du Dieu vivant? Amen. Je vais prier. Je m'excuse d'avoir pris plus de temps. Je suis rendu comme ça. C'est bien dur pour me prêcher juste une heure. C'est mon défi. Père éternel, on vient devant toi ce matin. Seigneur, on te remercie parce que tu nous as sauvés. Tu nous as sauvés, tu nous as lavés, tu nous as purifiés. Et Seigneur, aujourd'hui, on veut prier. On veut prier dans cette maison. On veut prier que chaque personne ici puisse s'engager dans l'armée spirituelle. Seigneur Dieu, qu'il n'y a aucune crainte qui garde les gens liés. Mais aujourd'hui, Seigneur, on veut te voir. On veut voir ta gloire éclater dans cette maison. Seigneur, cet été, nous voulons voir au moins une personne sauvée. On veut voir cette église doublée cet été, Seigneur. On croit que c'est possible. On croit que c'est possible. C'est possible. Mais Seigneur, fais un miracle dans nos cœurs. Seigneur Dieu, aujourd'hui, on veut se repentir de notre amour de soi-même où on n'est pas prêt parfois à faire les choses que tu nous appelles à faire. Aujourd'hui, Seigneur, on veut entrer dans ce repos, mais ce n'est pas un repos endormi, c'est un repos dans ta puissance surnaturelle. Alléluia, merci pour les âmes qui sont sauvées cet été. Seigneur, je prie pour mes frères et mes sœurs maintenant. Il y a beaucoup de paroles qui ont été prononcées ce matin. Il y a toutes sortes de façons que les gens peuvent interpréter. Aujourd'hui, je prie que tu puisses faire en sorte qu'ils puissent juste se concentrer sur la chose qu'ils ont besoin de comprendre. Aujourd'hui, Seigneur, je prie que le Saint-Esprit puisse souffler sur la flamme dans les cœurs, que tu puisses donner une vision nouvelle ce matin à chaque personne, que tu puisses leur étamper dans leurs yeux, Seigneur Dieu, la personne qui est là, la personne qui est mûre. Donne-nous tous une vision ce matin, au moins une âme, une personne qui te cherche. Merci pour la foi surnaturelle dans cette maison. Merci parce que nous croyons, Seigneur, que nous verrons la gloire de Dieu dans cette maison. Merci pour les âmes qui se rajoutent. Merci pour ton onction, l'onction de ton Saint-Esprit qui nous recouvre. Merci parce qu'on va être entraînés en plus. On n'est pas laissé tout seul à tout faire, mais avec ton onction, Seigneur Dieu, et avec l'Église locale, on est entraînés, on est supportés dans la mission et nous gagnons des âmes ensemble parce que tu as fait de nous des pêcheurs d'hommes. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. J'aimerais ça inviter les internautes également qui sont là, qui disent, moi aussi je veux évangéliser, moi aussi je veux faire partie de votre fraternité, de cette armée. Écrivez-nous simplement en écrivant info@evqmedia.com et dites-nous que vous voulez également vous engager personnellement. On va se réjouir parce qu'on sait que cette décision, c'est pas juste local, mais partout à travers le monde, on peut avoir une armée qui se lève aujourd'hui, qui dit « on évangélise ». Et pour les frères et les sœurs qui ont accepté le Seigneur dans cette église, il n'y a pas si longtemps, le produit est nouveau, donc on ne pouvait pas vous l'offrir avant. Mais si vous avez accepté le Seigneur récemment, on veut vous le donner. Allez à la table d'accueil en sortant, et puis on va vous donner le titre victorieux. Amen. Et puis, joignez-vous dans un groupe vie ou dans la jeunesse. Soyez dans une fraternité de l'Église. C'est important de ne pas être isolé dans notre coin. Mais c'est important de vraiment faire partie de la famille parce que c'est ensemble qu'on avance. Une personne, un soldat tout seul ne peut pas remporter. Mais ensemble, on avance. Ensemble, on est une armée qui avance. Puis ensemble, on va voir des signes, des prodiges, des miracles. La gloire de Dieu éclater parmi nous. Amen. Père éternel, je te remercie pour le feu pour que tu te déposes dans chaque cœur de cette Église. Merci parce que chaque personne dans cette Église choisit la sainteté, choisit la mission divine. Merci, Seigneur Dieu, parce que ton onction augmente dans la vie de chaque personne. Merci parce que cette onction augmente, elle augmente, elle augmente. Et on voit, Seigneur Jésus, des hommes venir à toi. Merci, Seigneur Dieu, pour cette journée spéciale, cette journée où on décide de tous, on va tous entrer dans notre appel de gagneur d'âme. Au nom de Jésus, je plaide le sang de Jésus sur chaque personne. Au nom de Jésus, le shalom de Dieu, rien ne manque, rien de brisé dans leur vie. Alléluia, merci Seigneur Dieu. Gloire à Dieu. Bon dimanche et à dimanche prochain. Bon groupe vie et revenez la semaine prochaine encouragés dans les voies de Dieu.
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.